Bon, nous allons continuer nos leçons dans la série sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 21. Nous allons regarder aujourd'hui les propriétés de la parole écrite de Dieu. On est à la quatrième partie. Nous allons examiner aujourd'hui les objections à la doctrine de l'inhérence des Saintes Écritures. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les objections une par une et on va aussi développer comment nous, on répond à ces objections-là. La vérité de la doctrine de l'inhérence des Saintes Écritures a été violemment attaquée par les modernistes libéraux qui voient la Bible comme un ramassis et un mélange confus de mythes anciens, de légendes historiques et de vérités spirituelles. D'autres veulent conserver l'autorité de la Bible en rapport avec ses doctrines fondamentales, mais affirment qu'elle contient des erreurs. Ce faux enseignement a été historiquement développé et promu par des personnes en marge de la chrétienté professante, et par certains catholiques romains, mais à l'époque moderne, il a pénétré l'évangélisme. Les arguments modernes de l'intérieur du monde évangélique contre l'inhérence biblique complète sont parallèles aux arguments des modernistes libéraux du 19e siècle, montrant comment le modernisme a pris pied dans les églises évangéliques. Dans cette leçon, nous examinerons des objections représentatives à l'inhérence et nous y répondrons brièvement. Des réponses détaillées à toutes les objections ne sont pas possibles dans cet enseignement, mais nous allons en esquisser les grandes lignes pour montrer que les réponses raisonnables ne manquent pas. Alors, on va regarder la première objection, l'objection numéro 1, et c'est l'objection de la faillibilité humaine, autrement dit que l'être humain est faillible. Alors, leur argument pourrait se résumer comme suit. Bien que Dieu ait inspiré la Bible, elle a été écrite par des êtres humains. Les êtres humains commettent des erreurs. Par conséquent, il est inévitable que la Bible contienne des erreurs qui ne doivent pas être imputées à Dieu, mais aux hommes. Alors ça, c'est leur argument. Maintenant, on va donner notre réponse à cet argument-là. En réponse, nous disons que la Bible témoigne que toutes les paroles sont des paroles humaines, écrites par des êtres humains, et aussi que toutes ces paroles sont des paroles divines de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. Par conséquent, nous ne devons pas attribuer les parties de la Bible à l'homme en dehors de l'inspiration divine. Si la Bible se trompe, alors Dieu se trompe. De plus, comme le note le théologien John Frame, les êtres humains ne se trompent pas nécessairement, mais les personnes non régénérées. Même les personnes non régénérées disent parfois la vérité. Nous ne devrions donc pas penser qu'il est impossible que Dieu puisse se révéler à travers des agents humains, les gardant de l'erreur, sans violer leur humanité. Frame souligne également que le Christ était pleinement humain, mais n'a pas parlé avec erreur. Il conclut en disant, en général, l'humanité de la parole de Dieu n'est pas un handicap, mais une perfection. L'intention de Dieu dans la révélation est de communiquer avec les gens. Pour ce faire, il doit donc parler leur langue afin qu'ils puissent la comprendre. L'Écriture montre que Dieu a effectivement réussi à mettre sa parole au moyen des paroles humaines, des paroles que les prophètes, les apôtres et les auteurs bibliques prononcent comme les leurs. Pour cela, Il mérite des louanges et non des soupçons. Deuxième objection. Leur objection est basée sur l'histoire, le fait que l'histoire n'est pas essentielle à la religion. Je vous lis leur argument. L'infaillibilité de la Bible se rapporte à son enseignement doctrinal concernant le Christ et le salut, mais pas aux récits historiques qui sont souvent défectueux et incrustés de légendes, en particulier les premiers chapitres de la Bible. Maintenant, voici ce que nous répondons. En réponse, nous affirmons que cette distinction est imposée aux Écritures par une philosophie qui leur est étrangère. La Bible elle-même n'indique pas une telle limitation à son inspiration, mais affirme qu'elle est entièrement la parole de Dieu, produite par le Saint-Esprit. Alors, les passages qui sont classiques par rapport à ça, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, et aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 20 et 21. La distinction entre doctrine religieuse et histoire est artificielle, car l'Évangile est centré sur des événements historiques, comme on peut le lire, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et versets 3 à 8. Alors, je laisse les gens aller voir eux-mêmes ces versets-là. En dehors desquels, ces doctrines ne peuvent tenir. La prédication des apôtres montre qu'ils considèrent l'histoire d'Israël culminant dans la vie et les œuvres du Christ, en fait, toute l'histoire du monde depuis la création, comme étant une partie essentielle de la parole de Dieu aux hommes. Alors, ce que je suggère aux gens qui écoutent, vous pouvez télécharger les notes en PDF et tous les versets, j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a d'autres qui sont sur les notes que je vous conseille d'aller voir et de lire par vous-même. Autre partie de notre réponse, les auteurs bibliques n'ont manifesté aucun scrupule ou critique quant à la fiabilité historique des récits bibliques, mais ont uniformément supposé qu'ils étaient vrais. Luc le revendique pour son évangile, qui était basé sur des témoins oculaires, déclarant dans son introduction qu'il l'a écrit « afin que tu connaisses la certitude de ces choses dans lesquelles tu as été instruit. » Luc chapitre 1, versets 3 et 4. Le terme traduit par certitude, qui est le mot grec asphalia, signifie souvent sûreté, sécurité, en ce qui concerne la vérité ou sa fiabilité. La forme adverbiale apparaît en acte 2:36 dans l'expression savoir assurément. Le grec dit asphalos. Par conséquent, Luc affirme écrire une histoire vraie et fiable. Autre partie de la réponse qu'on donne, c'est que Jésus-Christ affirme la fiabilité totale de la parole de Dieu, y compris les récits historiques de la Genèse. Le Christ fait référence à la création du premier homme et de la première femme, lorsqu'il dit au commencement, et à l'institution divine du mariage dans le jardin, comme on peut le lire dans le passage de Matthieu 19, les versets 4 à 6. Le Christ ne considère pas Genèse 1 comme un mythe, mais affirme, comme il le déclare dans Marc chapitre 10, verset 6, « Mais dès le commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. » Le Christ lui-même considère Abel comme le premier martyr. On peut lire ce fait-là dans Matthieu chapitre 23, verset 35. De plus, il considère le déluge mondial, l'arche de Noé, la destruction de Sodome et le jugement de la femme de Lot comme des réalités historiques et les compare à sa seconde venue. Luc 17, versets 26 à 32. De même, le Christ parle de l'ingestion de Jonas par un gros poisson, de la repentance de Ninive à la prédication de Jonas, et de la visite de la reine du Midi à Salomon, comme des événements réels et historiques. Nous pouvons lire ces choses dans Matthieu chapitre 12, versets 39 à 42. Si nous voulons être considérés comme des disciples du Christ, notre divin enseignant, nous devons accepter sa vision de la Genèse et de l'histoire biblique en général. L'objection numéro 3. Ils disent que les contradictions viennent du fait qu'ils disent qu'il y a des contradictions avec la science et l'histoire moderne. Alors, je vous lis leur argument et ensuite on va regarder comment ils répondent. Leur argument est le suivant. La Bible contient en fait des erreurs historiques et scientifiques, comme on le voit en comparant la Bible aux conclusions des historiens et des scientifiques modernes. Très grave accusation. Notre réponse. En réponse, nous notons que l'histoire et la science sont des formes légitimes de l'activité humaine. Les chrétiens ne doivent pas s'en dérober, mais les encourager et y participer. Les chrétiens doivent également être ouverts à la possibilité que notre traduction et notre interprétation d'un texte de la Bible ne soient pas tout à fait exactes. De plus, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, la Bible n'a pas été écrite avec une précision scientifique, mais dans un langage ordinaire, tel que les choses apparaissent à l'œil humain, étant adaptées pour communiquer la vérité à des personnes sans formation technique. Autre partie de la réponse. Cependant, les chrétiens n'ont pas besoin d'être intimidés par les érudits et les scientifiques. Nous devons nous méfier du fort préjugé de la culture occidentale moderne, selon lequel toutes les affirmations des scientifiques doivent être traitées comme des faits prouvés, mais toutes les affirmations religieuses doivent être considérées comme des opinions personnelles. De nombreux facteurs font de l'histoire et de la science moins que certaines entreprises, en particulier lorsque nous passons de la simple observation de données brutes à leur interprétation dans des reconstructions historiques et des théories scientifiques. Les enseignements des hommes et des femmes les plus brillants doivent être révisés et des révolutions ont lieu dans les perspectives qui régissaient autrefois l'académie. Les universitaires et les scientifiques ne sont pas d'accord avec leurs collègues et leurs pairs dans leur domaine. Les archéologues doivent interpréter la signification des objets anciens qu'ils découvrent. Les historiens s'appuient sur des témoignages écrits anciens qui doivent être traduits, interprétés et évalués. Les scientifiques peuvent observer des schémas réguliers dans leurs expériences de laboratoire, mais ne peuvent que spéculer sur ce qui s'est passé dans l'histoire dont ils n'ont pas personnellement été témoins. Tous les domaines académiques implique une interdépendance mutuelle de nombreuses personnes travaillant ensemble. Et les erreurs ou les séductions de quelques-uns peuvent en influencer beaucoup d'autres, même si les chrétiens qui doivent fonctionner dans le cadre du système établi. L'histoire et la science peuvent être intensément politisées, alors que les gens luttent pour le pouvoir pour eux-mêmes et leur parti, et les chercheurs agissent à partir d'un mélange complexe de motifs qui influencent la façon dont ils interprètent et rapportent leurs découvertes. Nous devrions rejeter le mythe de l'objectivité neutre, reconnaître que les systèmes de pensée générés par l'humanité déchue sont hostiles à Dieu et à sa parole et soumettre toute la traduction et la philosophie, la tradition et la philosophie humaine à une critique biblique radicale. Quatrième objection, c'est le fait qu'ils affirment qu'il y a des contradictions dans la Bible. Alors, je vous lis leur argument et ensuite on va donner notre réponse. Alors, voici leur argument. Des parties de la Bible contredisent d'autres parties. Et, par conséquent, les Saintes Écritures ne peuvent pas être entièrement vraies. Il existe des contradictions doctrinales majeures, comme une vision de Dieu dans l'Ancien Testament qui est réformée dans le Nouveau Testament. Il y a des incohérences systématiques, comme la manière dont les évangiles rapportent les actes de Jésus-Christ dans des ordres différents et ses paroles avec des mots différents, ou la manière dont le Testament cite l'Ancien Testament avec des mots différents. Et il y a des contradictions de détails dans les chronologies ou les nombres historiques. Alors, voici leur argument. Alors, notre réponse est celle-ci. En réponse, nous soutenons que les croyants en Christ qui étudient attentivement la Bible trouvent que lorsqu'elle est correctement interprétée, elle enseigne un système de vérité remarquablement unifié. Il est vrai que Dieu a progressivement révélé sa vérité avec une clarté croissante et a varié la manière dont il a administré son alliance au cours de l'histoire. Cependant, la loi morale de l'amour et l'évangile de la grâce restent les mêmes. Les pécheurs sont toujours sauvés par la grâce, par la foi, sans le mérite des œuvres. On pourra tout examiner ça dans le quatrième chapitre de l'Épître aux Romains. Le Seigneur est le même Dieu dans toute sa parole, le Dieu d'amour, de vérité et de justice. On pourra aller voir le passage Exode 34, versets 6 et 7. Ceux qui dédaignent le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu de colère barbare ne reconnaissent pas la condamnation à mort que le péché a apporté à toute l'humanité. On peut voir ces choses-là dans Genèse 2, 17 et dans le Romains chapitre 5, verset 12. Ils se sont également opposés au Christ qui chérissait l'Ancien Testament. On peut voir cela dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. Et il enseignait à plusieurs reprises la redoutable doctrine de l'enfer. Souvent, ceux qui prétendent trouver un conflit entre les principales doctrines de la Bible montrent davantage leurs propres préjugés contre des vérités bibliques particulières que les contradictions des Saintes Écritures. Lorsque ce préjugé les amène à rejeter des parties de l'Écriture sainte comme sous-chrétiennes, comme on pourrait dire, entre guillemets, ils commettent essentiellement la même erreur que le théologien Marcion, qui a vécu entre 85 et 160 après Jésus-Christ, il a rejeté l'Ancien Testament, une erreur que l'Église primitive considérait à juste titre comme hérétique. De plus, nous pouvons dire, les quatre évangiles offrent quatre perspectives sur les œuvres et les paroles de notre Seigneur Jésus, un peu comme les deux perspectives qu'on trouve dans le livre de Samuel et dans le livre des Rois et des Chroniques sur la monarchie israélite. Ces multiples perspectives enrichissent notre compréhension et notre appréciation, un peu comme regarder un objet sous différents angles. Nous n'avons pas besoin d'être perplexes devant les différences dans l'ordre chronologique. Nous devons nous rappeler que le but des évangiles est à la fois historique et théologique, et par conséquent, ils peuvent regrouper les événements de la vie de notre Seigneur selon un thème qu'ils entendent mettre en évidence. De plus, les manuscrits originaux de la Bible n'utilisaient pas de guillemets pour marquer les citations directes, et rien ne prétend qu'il rapporte les paroles exactes du Christ. Il est probable que le Christ a souvent parlé en araméen et les évangiles ont traduit ses paroles en grec, qu'on appelle koiné, c'est le grec de l'époque de Jésus, qui était écrit. De la même manière, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas directement cité l'Ancien Testament hébreu, mais ont utilisé une traduction grecque, souvent la Septante, ou quelque chose de proche. À d'autres moments, ont paraphrasé ou fait allusion à des textes de l'Ancien Testament. Edward Young, qui est un grand érudit de la Bible, a noté « À l'époque de l'Antiquité, ce n'était pas la pratique de répéter textuellement chaque fois que quelque chose était écrit. La question de l'inhérence dans les citations ne concerne pas les mots exacts, mais la communication d'une vérité exacte. Bien que le Nouveau Testament, ne prétende pas donner des mots exacts de l'Ancien Testament ou du Christ, il nous dit le vrai message de la personne qu'il cite avec une exactitude sans faille. De plus, face à une contradiction apparente dans les détails historiques, nous devrions l'aborder avec le présupposé du témoignage global de la Bible qu'il s'agisse de la parole de Dieu. D'une manière générale, la solution à un tel problème prend l'une des quatre formes suivantes. Premièrement, il est possible qu'une erreur ait été imposée au texte inspiré original par ceux qui ont copié les anciens manuscrits. La solution consiste à recourir à la critique textuelle et à consulter les versions anciennes. Deuxièmement, il est possible que nous ne traduisions ou n'interprétions pas correctement l'un ou les deux textes. Il nous faut exercer une exégèse biblique soigneuse. Troisièmement, il est possible que les deux textes soient complémentaires, abordant la même situation sous des angles quelque peu différents, mais tout aussi valables. Cela peut être un sujet de théologie systématique et de réflexion philosophique, et cela peut même nécessiter des recherches sur différentes méthodes anciennes de comptage des jours, de comptage des années, de comptage des soldats dans une armée, etc. Quatrièmement, il est possible que nous ne soyons pas en mesure actuellement de résoudre le problème d'une manière qui satisfasse pleinement nos esprits. Cela demande de l'humilité et de la patience et ne devrait pas nous surprendre car il y a des choses dans de nombreux domaines de la vie que nous ne comprenons pas entièrement. Et cinquième et dernière objection, c'est celle de la nouveauté théologique. Alors je vous lis leur argument concernant la nouveauté théologique. La doctrine de l'inhérence est une nouveauté théologique imposée relativement récemment aux églises réformées. Ce n'est pas la doctrine de l'Église antique, médiévale ou de la Réforme, mais la vision particulière de Francis Turretin, adaptée et diffusée au 19e siècle par les théologiens du vieux Princeton, qu'on appelle le Old Princeton, tels que Charles Hodge et Benjamin Orfield. Alors ça, c'est leur argument, maintenant, notre réponse. En réponse, nous affirmons que cet argument, présenté avec force par certains spécialistes de l'évangélisme à la fin du 20e siècle, est en fait une vieille plainte du modernisme libéral du 19e siècle. Cela représente une grossière incompréhension de la théologie historique. Bien que l'Église n'ait pas toujours formulé la doctrine de la véracité biblique avec la même précision qu'elle l'a donnée récemment sous la pression des faux enseignements, elle a constamment affirmé la pleine fiabilité de la Bible en tant que parole de Dieu. Irénée, par exemple, a dit « Les Écritures sont en effet parfaites. » Il a dit aussi « Toute Écriture qui nous a été donnée par Dieu sera trouvée par nous parfaitement cohérente. Prendre un autre exemple, qui est celui de Clément de Rome, qui est mort en 99, après Jésus-Christ, a écrit « Regardez attentivement les Écritures qui sont les véritables paroles du Saint-Esprit. Observez que rien d'un caractère injuste ou contrefait n'y est écrit. » Maintenant, un peu plus tard, Saint-Augustin a dit, vers l'an 400, « Si nous sommes perplexes devant une contradiction apparente dans l'Écriture, il n'est pas permis de dire « L'auteur de ce livre se trompe. » Mais soit le manuscrit est défectueux, soit la traduction est erronée, soit vous ne l'avez pas compris. Il a expliqué que les livres écrits dans l'Église depuis l'ère apostolique n'ont pas la même autorité et nous pouvons retenir notre croyance à une certaine doctrine de l'homme. Cependant, ce qui concerne la Bible, Augustin a dit, mais en raison de la particularité distinctive des écrits sacrés, nous sommes tenus de recevoir comme vrai tout ce que le canon montre après avoir été dit par un seul prophète, apôtre ou évangéliste. Sinon, la Bible perdrait toute autorité et toute chose serait sujette au doute. La même vision de l'Écriture prévalait au temps de la période médiévale. Par exemple, Thomas d'Aquin a écrit « L'auteur de l'Écriture sainte est Dieu. Rien de faux ne peut jamais sortir de l'Écriture sainte. » Il a ajouté « Il est illégal de soutenir qu'une fausse affirmation est contenue dans l'Évangile ou dans une Écriture canonique, ou que ces auteurs ont dit des contre-vérités, parce que la foi serait privée de sa certitude qui est fondée sur l'autorité de la Bible. La foi en la véracité infaillible de la Bible était le point de vue dominant parmi les chrétiens tout au long de la Réforme, et longtemps après. Martin Luther a écrit « Dieu ne ment pas. Mon voisin et moi, en bref, tout le monde peut tromper et induire en erreur, mais la parole de Dieu ne peut pas tromper. » Il a dit « C'est aussi ma réponse à ceux qui m'accusent de rejeter tous les saints enseignants de l'Église. » Je ne les rejette pas. Je suis prêt à leur faire confiance seulement lorsqu'ils me donnent la preuve de leurs opinions à partir de l'Écriture qui ne s'est jamais trompée. » Saint Augustin a écrit à Saint Jérôme, dans ce sens-là, il a dit « J'ai appris à lire que les livres qu'on appelle les Saintes Écritures et de leur accorder l'honneur de croire fermement qu'aucun de leurs écrivains ne s'est jamais trompé. » Jean Calvin a convenu « Nous considérons que la foi est une connaissance de la volonté de Dieu envers nous, perçue à travers sa parole. Mais le fondement de cela est une conviction préconçue de la vérité de Dieu. Et il ne suffit même pas de croire que Dieu est digne de confiance, qu'il ne peut tromper ni mentir, à moins que vous ne teniez pour sûr que tout ce qui procède de lui est une vérité sacrée et inviolable. » La doctrine a continué dans l'orthodoxie réformée. William Perkins, qui était un grand leader des puritains, a dit « Les apôtres ont été appelés de Dieu immédiatement, enseignés et inspirés immédiatement, et immédiatement gouvernés par l'Esprit, à la fois dans la prédication et l'Écriture, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se tromper dans les choses qu'ils livraient à l'Église. Et donc, ils étaient à être entendus, même comme Christ lui-même. » William Whittaker, qui a vécu de 1548 à 1595, dans le livre « Disputation on Holy Scripture », autrement dit, la disputation de... Je ne sais pas si « disputation », c'est peut-être pas la bonne traduction, mais « Disputation on Holy Scripture » est un classique de la polémique réformée contre le catholicisme romain. Il a écrit « Nous ne pouvons que désapprouver totalement l'opinion de ceux qui pensent que les écrivains sacrés ont, dans certains endroits, tombé dans des erreurs. » Whittaker a expliqué « Il ne nous convient pas d'être indulgents pour admettre qu'une telle erreur puisse être possible pour les écrivains sacrés. Ils écrivent sous l'impulsion du Saint-Esprit, comme nous le dit Pierre, en 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Et toute l'Écriture est inspirée de Dieu, comme Paul l'a écrit expressément dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors que, par conséquent, personne ne peut dire qu'aucune infirmité puisse être attribuée au Saint-Esprit, il s'ensuit que les écrivains sacrés ne pouvaient être trompés ou se tromper à aucun égard. Par conséquent, lorsque nous affirmons la véracité infaillible de la Bible, nous nous tenons aux côtés des témoins fidèles du peuple de Dieu à travers les âges. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette brève, très très brève étude sur les objections de l'inhérence biblique? Première application. La doctrine de la véracité inhérente et infaillible de la Bible n'est pas sans défi. En partie, ceux qui proviennent de l'hostilité des incroyants contre Dieu. Ils proviennent en partie de notre compréhension limitée et parfois confuse en tant qu'êtres humains qui ont subi les effets de la chute. Dans cette leçon, nous avons esquissé les réponses aux types d'objections les plus courants. Cependant, notre point de vue sur la Bible ne peut pas être basé sur une réfutation point par point de toutes les objections imaginables. Il n'y aurait pas de fin. Notre foi dans la fiabilité de la Bible n'est finalement pas basée sur notre compréhension complète de chaque détail, mais sur notre confiance que c'est la parole de Dieu. Le point de ce sermon est qu'une telle confiance n'est pas irrationnelle, mais est la confession sage et historique de l'Église qui, à travers les âges, a reconnu que les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu qui ne peut dire que la vérité. Apprécions davantage les Saintes Écritures et leur solidité divine. Consacrons-leur plus de temps pour les lire, les écouter, les méditer, les mémoriser et les étudier. Nous en serons richement récompensés et notre foi sera inébranlable. Passons à l'action, dès aujourd'hui. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour nous avoir donné ce trésor des Saintes Écritures. Amen. Amen.